L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Il y a des personnes qu'on entend très peu, et c'est de manière assez rigolote, les podcasteurs. On les entend beaucoup poser des questions, mais on ne les entend pas parler de leur avis à eux. Et j'avais envie de recevoir Victoire Toyon, qui tient le podcast Des couilles sur la table, qui est produit par Binge Audio, parce que je trouve que son podcast est hyper intéressant sur le rapport à la masculinité et la remise en question, finalement, des rapports entre les hommes et les femmes. Donc je suis ravi de vous offrir cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour Victoire.
Bonjour Greg.
Je suis ravi que tu sois là aujourd'hui. Donc tu as un podcast qui s'appelle Les couilles sur la table, qui parle de masculinité. J'aimerais comprendre, et c'est la première question qu'on doit te poser un peu de manière systématique, mais néanmoins elle est importante, pourquoi dans ta posture féministe, tu as choisi de parler des hommes et parler de la masculinité ?
Eh bien parce que c'est un sujet qui n'est que rarement abordé, puisqu'en fait on vit encore selon des normes qu'on dit dans un monde très androcentré, c'est-à-dire où on considère que l'homme, c'est le neutre, c'est le point de départ, c'est ce à quoi on compare les femmes. C'est-à-dire qu'on dit les femmes, leur spécificité, c'est qu'elles ne sont pas des hommes. Et en fait, c'est un sujet extrêmement important dans le féminisme et dans toutes sortes de sciences sociales aussi, c'est-à-dire d'arrêter de considérer que les hommes sont neutres. Et donc d'examiner ce qui nous paraît aller de soi, ce qui nous paraît être naturel, ce qui nous paraît être universel, ce qui nous paraît être la norme. Et la norme dans nos sociétés aujourd'hui, c'est la masculinité.
Tu as des exemples de normes ? Parce qu'en fait, je pense que pour les hommes qui écoutent, en tout cas, ils n'ont même pas... Parce qu'en fait, à partir du moment où ils considèrent que c'est la norme, ils ne réalisent même pas que c'est une norme.
Bien sûr. Finalement. En fait, il y a deux idées qui aident à faire prendre conscience de ça. C'est-à-dire que Simone de Beauvoir a écrit dans Le Deuxième Sexe en 1949 qu'on ne naît pas femme, on le devient. Mais évidemment, le corollaire de ça, c'est qu'on ne naît pas homme non plus, mais on le devient. Et ensuite, il suffit de penser à la langue, par exemple, au langage qu'on utilise, au fait qu'on dit que les droits de l'homme, en fait, c'est les droits humains, mais pour dire les humains, on dit les hommes dans notre langue. Et un autre exemple de ça, de comment les normes masculines modèlent notre monde, il y a une journaliste qui s'appelle Caroline Criado-Pérez qui vient de sortir une enquête en Angleterre où elle explique que dans toutes sortes de fabrications d'objets, de fabrications de machines, en fait, c'est la norme masculine qui est utilisée. Par exemple, les automobiles, ça, vous allez le comprendre. Les hommes, si vous prêtez votre automobile à une femme, vous voyez que très souvent, en fait, il faut qu'elle avance beaucoup trop en avant le siège pour pouvoir atteindre les pédales. Parce qu'en fait, les automobiles ont été construites sur le modèle d'un individu qu'on pensait standard, mais qui se trouve avoir les mensurations d'un homme standard. Or, un homme en moyenne mesure 1m77, une femme en moyenne mesure 1m62. Et ça a des conséquences dramatiques, en fait, dans le monde dans lequel on vit. Par exemple, les voitures ne sont pas adaptées au corps de la majorité des femmes.
Et tu veux que je te donne un truc dramatique sur ce sujet ?
Dis-moi.
Et ben, en fait, comme effectivement il y a des biais cognitifs, c'est à ça que tu fais référence, il y a beaucoup plus de femmes qui meurent parce que les airbags ne correspondent pas, en fait,
dans le cas d'un accident. C'est ce qu'explique la journaliste Caroline Criado-Pérez dans son livre. Et donc, en fait, quand on ouvre les yeux là-dessus, on s'aperçoit que il y a énormément de normes qui sont conçues avec en tête qu'un individu standard, en fait, c'est un individu masculin, parce qu'il n'y a pas d'individu standard, ça n'existe pas.
Bien sûr. Et alors, du coup, qu'est-ce que toi, tu as appris au cours, ça fait plus d'une année déjà.
Ça fait 2 ans, ça va faire quasiment 2 ans, ouais.
Quasiment 2 ans.
Ouais.
Qu'est-ce que tu as appris sur les hommes, peut-être sur la masculinité et sur ce rapport justement entre les hommes et les femmes?
Bah, énormément de choses.
Ouais, j'imagine.
C'est parce que donc dans chaque épisode, on s'intéresse à une question précise, mais disons que c'est comme si ma vision devenait de plus en plus de plus en plus claire et de plus en plus perçante en fait sur des choses que je voyais pas auparavant. Mais ça s'applique à ma vie personnelle, donc à mes relations amoureuses et sexuelles, mais aussi à la façon dont je considère les politiques qui sont menées, la façon dont je pense la destruction de la planète, par exemple, et puis sur les hommes autour de moi, et les hommes dans la pop culture et dans les œuvres. En fait, ça change absolument tout. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce que ça m'a appris? Bah, déjà que c'est encore une question qui est très peu conscientisé, quoi que ça commence, on commence à en parler de plus en plus. Mais c'est vrai qu'on fait comme si la masculinité, c'était quelque chose de naturel. Et il y a encore la croyance que bah, les hommes sont les hommes, et voilà, et ils sont comme ça. Et il y a quand même cette volonté de rechercher sans arrêt des explications naturalisantes ou naturalistes au comportement des hommes, du type « Ah bah oui, les hommes sont plus agressifs et plus violents, mais bon, c'est la testostérone, etc. » Et en fait, plus je travaille ces sujets, plus je lis de livres, de thèses, d'articles, etc., puis je m'aperçois que vraiment, il y a rien, il n'y a pas d'essence humaine, quoi. Il n'y a pas d'essence de genre, quoi, certainement pas. Il n'y a pas d'essence masculine, il n'y a pas d'essence féminine. Et nos destins ne sont pas du tout inscrits ni dans nos chromosomes, ni dans nos hormones, ni dans quoi que ce soit, en fait. Il n'y a pas de nature humaine, quoi. On est vraiment et du biologique et du culturel, et les deux sont tellement enchevêtrés que c'est stupide de vouloir dégager ce qui serait de l'ordre des raisons biologiques et des raisons sociales, en fait.
C'est difficile, d'ailleurs, de le faire, je pense. Personne ne sait vraiment.
Mais non, en fait, personne ne le fait. D'ailleurs, il n'y a aucun scientifique qui s'aventure à le faire, enfin, à part les gens qui font genre de la psychoévolution et tout ça, mais non, parce qu'on voit bien que, enfin, voilà, encore une fois, les êtres humains ne sont pas des animaux, et on n'a pas... on n'est jamais entièrement... Edgar Morin disait on est 100% les comportements humains, c'est 100% du génétique et 100% du culturel, quoi. On est les deux, en fait.
C'est ça.
Et voilà. Et donc, sur les hommes et les masculinités, bah, je savais déjà en commençant le podcast, ça fait longtemps que je me documente sur ce sujet, mais que c'est vraiment... ce sont des constructions sociales, et c'est aussi des relations, en fait, des relations de pouvoir. La masculinité, c'est une relation de pouvoir, en fait.
Et qu'est-ce que tu as envie de dire? Alors, il y a plusieurs questions que j'ai en tête. La première, et c'est parce que je rebondis, je l'avais en tête, mais je rebondis sur ce que tu viens de dire, sur ta relation aux hommes dans ta vie personnelle, pas nécessairement amoureuse, mais dans l'absolu. Qu'est-ce que ça a bougé de faire ce podcast, peut-être? Ou comment ça a évolué pour toi, en fait?
Bon, c'est un peu un cliché quand on dit ça, quand on est féministe, je m'en veux un peu de le dire, mais j'ai rien contre les hommes. Voilà, jamais. Enfin, j'ai des frères, j'ai beaucoup d'amis hommes, je me suis jamais... Donc...
T'es pas dans un combat, on va dire.
Enfin, dans un combat, mais... dans un combat, mais c'est-à-dire qu'en fait, j'estime que je le fais parce que j'ai beaucoup d'estime pour les humains en général, en fait. Donc, je pense pas que les hommes sont tous pareils, qu'il y a rien à en tirer, etc. C'est pas ça, mais au contraire, je trouve que... En fait, on vaut tous beaucoup mieux que ça, quoi. Notre monde mérite d'être beaucoup mieux que ce qu'il est actuellement, et que ça peut changer, en fait. Donc, c'est une vision qui est très optimiste, mais qui est aussi exigeante. C'est-à-dire que tous les arguments du type « bah oui, mais les mecs sont comme ça, etc. », ça me convainc pas du tout. Et j'ai pas envie de continuer à vivre dans ce monde-là, en fait, où on tolère énormément la violence masculine, voire on l'encourage. On fait comme si c'était une fatalité. On fait comme si c'était le fait d'individus qui seraient malades, anormaux, monstrueux, etc. Alors qu'en fait, elle est partout. Donc peut-être que ça m'a rendue encore plus exigeante en restant bienveillante, mais c'est vrai que il y a tout un tas de comportements que je tolère plus du tout dans ma vie personnelle, relationnelle, amicale, sexuelle, amoureuse, etc., quoi.
Par exemple.
J'accepte pas qu'on me... Moi, je l'acceptais pas non plus avant, hein. J'ai jamais été très docile ni très effacée comme personne, mais je vois bien que dans ma vie professionnelle, j'accepte plus qu'il y ait des types qui m'expliquent la vie, quoi, par exemple. Ou qui me coupent la parole sans arrêt, ou dans ma vie sexuelle et amoureuse, quelqu'un, un homme avec qui je j'engagerai des relations dont je m'aperçois qu'il est pas du tout respectueux, qu'il dénigre les femmes, qu'il est, j'ai pas envie d'avoir de relations avec cette personne en fait.
Ouais, voilà. Heureusement.
Ouais. Enfin, mais j'ai beaucoup de chance parce que je suis très entourée d'amis de tous les genres et de toutes les en tout genre qui justement partagent mes valeurs et mes idéaux. On partage des valeurs et des idéaux et donc je suis très heureuse dans ma vie et je rencontre plein d'hommes qui sont super et qui sont ouverts et qui sont pas dans la recherche de pouvoir et tout ça, et donc c'est vrai que c'est un soulagement par rapport à d'autres époques de ma vie. Ouais.
Et tu fais référence d'ailleurs dans un des épisodes, je crois, à ton frère, que parfois t'as du mal à... enfin c'est une personne qui commente en disant parfois j'ai du mal à convaincre mon frère, je comprends pas, qu'est-ce que je peux faire, etc. Ouais. Et toi tu lui réponds en disant bah oui, moi aussi avec mon frère parfois c'est pas facile.
Oui, et je lui dis même en fait tu peux pas changer les gens. Et donc il y a ça aussi, je suis pas dans une croisade d'évangélisation ou de prosélytisme et tout, donc je considère que la vie est courte, il y a plein de belles choses à vivre et j'ai pas tellement envie de passer mon temps à combattre des moulins, ou c'est-à-dire concrètement à essayer de convaincre des types qui sont misogynes et sexistes, etc. quoi. Je le fais pas. Donc cette jeune fille me demandait mais comment est-ce que je vais faire pour rééduquer mon frère et tout, et moi je lui disais mais laisse tomber en fait. Je comprends que ce soit difficile, mais je crois vraiment pas qu'on puisse changer les gens contre leur volonté, en fait. C'est pas possible.
Non.
Donc, par exemple, j'ai un de mes frères, qui est ouvertement misogyne et tout ça, et ben, j'ai... je suis désolée pour lui, et en même temps, j'ai pas envie d'y dépenser du temps, de l'énergie, de l'affect, etc., parce que la vie est courte, voilà.
Bah, c'est surtout lui qui a peur. Enfin, moi, à mon sens.
il mène sa vie, il est adulte, il mène sa vie comme il le veut et tout, mais c'est vrai moi, j'ai pas envie de m'infliger cette violence-là, en fait.
Non, donc, c'est clair. Il n'y a aucune raison.
Mais après, j'ai d'autres frères et d'autres amis et d'autres types de relations et tout qui sont très satisfaisantes, avec qui je peux parler de ce genre de sujet.
Et il y a une autre question qu'on te pose et dont on parlait tout à l'heure aussi, qui est un certain nombre d'hommes, je pense, s'imaginent ou en tout cas considèrent que c'est un sujet qui est énormément traité, peut-être trop traité, et du coup qui en ont marre d'entendre parler de féminisme à tout bout de champ. Qu'est-ce que tu as envie de leur répondre à ces personnes? Parce qu'en fait, on en parlait tout à l'heure, mais je te laisse répondre, toi.
Ouais. Je sais pas si on en parle trop, en fait. J'ai l'impression que de toute façon, dès qu'on relaie la parole des femmes, c'est toujours trop, en fait. Là, je comprends qu'il semble y avoir une différence, parce qu'en fait, on n'en parlait pas du tout. Et puis là, tout d'un coup, il y a des sujets dans différents médias, il y a des comptes sur les réseaux sociaux qui se créent, il y a des publications, etc. Mais est-ce qu'on dirait, je sais pas moi, qu'on parle trop de foot, hein? Enfin, genre, alors qu'il y a des contenus sur le foot absolument partout, tout le temps, tu te fais infliger les résultats sportifs à la radio systématiquement. C'est considéré comme des nouvelles importantes. Bon, moi je dis pas qu'on parle trop de foot. Après. Donc ça m'interroge plus sur eux-mêmes, quoi. Je les inviterais à s'interroger sur qu'est-ce qui les dérange tellement, en fait. Est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir tout compris? Est-ce qu'ils ont l'impression de tout savoir? Est-ce qu'ils pensent pas qu'ils ont justement des choses à écouter, à entendre, à comprendre, et qui pourraient faire évoluer la façon dont ils se perçoivent eux, dont ils perçoivent le monde et leurs amis? Moi, je pense que c'est au contraire. Il y a eu, en fait, très très longtemps une même vision, encore une fois, très androcentrée, et qu'il est grand temps qu'on écoute les femmes, en fait, et qu'on écoute les problématiques féministes.
Mais je pense que, et ça revient un peu à la discussion qu'on avait tout à l'heure, mais, enfin, au tout début, d'ailleurs, tu disais, on a une vision très, finalement, centrée sur l'homme, et quand t'es un homme, tu t'en rends pas nécessairement... Enfin, c'est ce que tu disais.
Ben non, parce que tu te penses comme neutre et comme universel, et tu penses que ce qui te concerne absolument toute la planète. Mais de la même façon, quand t'es blanc, t'as souvent peu conscience que t'es blanc. T'as pas conscience que toutes les personnes qui sont représentées dans les publicités, dans les médias, dans toutes les œuvres culturelles, comme par hasard, ils ont ta couleur de peau, quoi. Et tu penses juste que, c'est normal, hein, que c'est neutre. Tu crois pas que t'es blanc.
Bon, non, c'est
voilà.
Non,
mais c'est un peu les mêmes mécanismes, quoi.
Le racisme, c'est vrai que c'est assez rigolo parce que, enfin rigolo, c'est pas rigolo, c'est pas le terme, mais c'est intéressant parce que effectivement, et moi je le vois parce que moi, en l'occurrence je suis métisse, donc du coup je peux le vivre cette partie-là en tout cas, et c'est très très intéressant de voir effectivement que les personnes blanches ne considèrent pas
où il y a des personnes qui disent, mais moi, je fais pas la différence, tu sais.
Ah oui, bien sûr. Je suis aveugle aux couleurs, etc. Bah oui, bien sûr.
Et c'est la même chose pour les sexes, finalement.
Ouais.
Tu vois, de dire, mais non, mais moi, je fais pas la différence.
Oui, bah, une des grandes postures des antiféministes, c'est de dire, ah non, mais moi, je suis humaniste. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on doit toujours mettre ça en avant, etc. Et en fait, on s'aperçoit très très vite quand on creuse un peu ce discours-là que ce qu'ils supportent pas, c'est d'entendre parler de réalités qui sont différentes de celles qu'ils vivent.
Et tu parles, t'as un épisode sur le viol que j'ai trouvé hyper intéressant, en disant que finalement la séduction à la française, c'est comme une séduction un peu forcée, on va dire. J'aimerais bien que tu en parles un petit peu de cet épisode.
Alors, donc c'est un épisode, donc j'explique pourquoi je l'ai traité dans ce podcast qui traite de masculinité. En fait, il faut savoir que 98% des auteurs de violences sexuelles, ce sont des hommes. Ces violences, elles sont subies, elles sont infligées en majorité à des femmes, mais aussi à d'autres hommes. Et donc, ça me paraît important de poser cette question qui a l'air peut-être un peu naïve de mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que 98% des auteurs de violences sexuelles sont de genre masculin ? Donc pour ça, j'ai invité quelqu'un qui s'y connaît bien mieux que moi, qui s'appelle Valérie Ré-Robert, qui a écrit un livre qui s'appelle « Une culture du viol à la française ». Et je vous encourage à la suivre sur Twitter, son nom c'est Valérie CG. Et je vais résumer ce qu'elle explique dans son livre et dans cet épisode du podcast. C'est-à-dire que, en fait, on a érotisé le non-consentement. C'est-à-dire qu'on considère qu'une femme qui dit non, en fait, elle ne veut jamais vraiment dire non, elle veut dire oui. Et on interdit en même temps aux femmes de dire oui, puisqu'une femme qui dit oui, c'est une salope, une dévergondée, etc. Donc tu n'as pas intérêt en tant que femme à dire oui. Et si tu dis non, tu ne vas pas être entendue en fait dans ton nom, parce que toute notre culture dit que en fait, quand tu veux dire non, tu veux dire oui. Bon. Et donc dans nos codes de séduction hétérosexuelle, en fait c'est une culture du viol, puisque... bon, il y a de multiples exemples de ça dans la peinture, dans les films, dans les photographies, dans les blagues, dans tout ça. Donc la culture du viol, c'est tout ce qui continue à perpétuer des stéréotypes et des clichés qui sont faux sur ce qu'est un viol. Et en fait, on est entouré de ça tout le temps, partout. Et donc notre culture de la séduction participe de ça aussi. Par exemple, avec l'idée que, je vais juste prendre un exemple, mais que si tu es un homme engagé dans un rapport de séduction hétérosexuelle, il est de ton devoir d'insister jusqu'à ce que la femme dise oui, par exemple. Il est aussi de ton devoir de ne pas prendre en considération ni son avis, etc. Et tu considères qu'il faut conquérir les femmes, qu'il faut leur arracher leur consentement ou leur oui, etc. Et donc, c'est pas du tout un rapport qui est égalitaire, en fait.
Et d'ailleurs, alors je me souviens pas du pourcentage, mais qui disait, et ça m'a choqué, que la majorité des viols, finalement, se faisaient pas dans une rue sombre par un inconnu.
Oui,
mais...
alors ça, c'est très important aussi à prendre en compte. Et ça choque toujours beaucoup quand je le dis, mais c'est une vérité qui est incontestable, en fait, qui est que... Bon, il faut savoir qu'il y a 12% des femmes en France qui ont été violées. Donc, ça veut dire que vous qui nous écoutez, mais vous connaissez forcément une femme qui a été victime de viol. Et parmi les femmes qui ont été violées, 80% ont été violées par quelqu'un qu'elles connaissaient. Quelqu'un dans leur entourage proche, donc de famille, dans leur entourage proche géographiquement, dans leur entourage proche par des amis, etc. Ce qui veut dire que si on connaît toutes et tous une femme qui a été violée, on connaît aussi toutes et tous un violeur. Et or, un des grands clichés de la culture du viol, c'est qu'un vrai viol, c'est quand on est violé par un malade mental dans une ruelle sombre ou dans un parking avec une arme, dans des conditions particulièrement atroces, et on s'est débattu et il a failli nous tuer, et il faisait nuit, on était courvêtus, etc. Tout ça, c'est des clichés. Et ces clichés-là, ils sont représentés dans les films, dans les discours, dans la littérature, etc. Et donc, il y a plein de viols qui sont par exemple des viols conjugaux, donc ça veut dire que c'est votre partenaire intime, copain, mari, etc. qui vous viole, et ça c'est encore c'est très récemment que c'est reconnu par la loi française, et dans la culture c'est pas reconnu comme un viol, et donc ça c'est encore très présent, quoi, l'idée qu'un vrai viol c'est fait par un inconnu qui est forcément malade mental, alors qu'en fait non, je rappelle que les vrais viols en fait sont commis par monsieur tout le monde. Et donc, par vos amis, par votre famille, par votre entourage, etc.
Tu sais, enfin, j'imagine que tu n'as pas la statistique, évidemment, parce que personne ne l'a. Combien d'hommes t'écoutent en pourcentage? Ou en fait, parce que j'imagine que tu as des retours d'hommes parmi...
Oui, oui, il y a beaucoup d'hommes qui m'écrivent. Alors, on n'a pas les statistiques d'écoute en fonction du genre.
Non, je sais.
En revanche, on a des statistiques sur les réseaux sociaux, donc c'est à peu près 50-50. Et puis
t'as
moi...
50-50 sur...
Ouais, et dans les personnes qui m'écrivent, donc ça me fait toujours super plaisir de recevoir du courrier. Bon, j'ai beaucoup de retard dans les réponses, mais... Vraiment, c'est toujours très touchant, très émouvant. Ça me fait penser à plein de sujets. Ça, enfin, c'est vraiment super. Et il y a beaucoup d'hommes qui m'écrivent.
Et du coup, est-ce que les hommes qui t'écrivent, est-ce que tu as senti que ça avait modifié quelque chose dans leur perception d'eux-mêmes, de leur masculinité?
C'est ce qu'ils m'écrivent, en tout cas.
Ouais. C'est donc pas des gens qui étaient déjà convaincus, donc c'est, enfin déjà convaincus, je sais pas si on peut dire ça.
Bah, je
ça,
sais mais... pas si le discours, bon, parce que je ne fais pas le podcast toute seule, hein, je le fais, c'est des entretiens avec des universitaires, des chercheurs, des chercheuses, des experts, des expertes, etc. Mais de ce que me disent les auditrices, parce que donc je dis auditrices pour dire auditeurs et auditrices, de ce qu'ils me disent et donc ce que disent les hommes qui m'écrivent, c'est que oui, ça change complètement leur perception d'eux-mêmes, de la masculinité, de leur rapport avec les autres, avec les femmes notamment. Ouais.
Et s'il y a un bouquin que tu recommanderais à tout le monde, finalement,
ouais.
Parce que je pense que ça concerne tout le monde, évidemment, hommes et femmes, et transgenres et tout le monde. Ça serait quoi?
Bon, pour moi, le bouquin fondateur de ma prise de conscience féministe et même qui a fait naître l'envie de faire ce projet un jour sur les hommes et les masculinités, c'est King Kong Theory de Virginie Despentes, que j'ai lu quand j'avais 16 ans, qui est très accessible et très puissant à la fois. Et qui est un texte d'une actualité folle. C'était publié il y a 13 ans, mais c'est vraiment très actuel, très lisible, etc. Donc je dirais de commencer par King Kong Theory. Et sinon, sur la masculinité spécifiquement, je dirais de lire peut-être Le mythe de la virilité d'Olivia Gazalet.
Mmh. Et c'est marrant parce qu'Olivia Gazalet, je l'avais entendue en particulier, je pense que c'était sur France Culture, où elle disait, et ça n'avait pas plu à la journaliste, que c'était plus difficile d'être un homme que d'être une femme. Je ne sais pas si tu avais entendu
ça. Oui, c'était chez Adèle Vendrette. Dans les chemins de la philosophie. Oui, non, c'est un peu embrouillé comme argument, mais en fait, non. Enfin, je ne crois pas du tout qu'on doit faire des compétitions. Ce serait long à expliquer de pourquoi elle a dit ça, mais bref.
Mais je suis assez d'accord. Je ne pense pas que ça soit nécessaire de. Enfin, il n'y a pas de compétition en réalité.
Ce qu'il ne faut pas dire, en revanche, c'est que les hommes souffriraient autant du patriarcat que les femmes, par exemple. Moi, j'ai jamais. C'était très clair en commençant le podcast, parce qu'il y a aussi toute une frange, et je refuse absolument cette vision-là. De gens qu'on appelle masculinistes qui vont expliquer que oui mais c'est hyper difficile d'être un homme et d'ailleurs les hommes souffrent énormément à cause du féminisme, ils savent plus comment être des hommes et où est leur véritable virilité, leur véritable masculinité, etc. Et moi ce que je m'attache à faire avec mes invités dans le podcast, c'est à montrer qu'il n'y a pas d'essence masculine, qu'il n'y a pas de véritable masculinité qu'il faudrait chercher à retrouver, à chercher ou à rétablir, etc. Que tout ça, ce sont des relations de pouvoir. Et pour l'instant, on vit dans un monde où les hommes ont beaucoup plus de pouvoir que les femmes. Ils ont beaucoup plus de pouvoir économique, c'est-à-dire que ce sont eux qui détiennent l'immense majorité des richesses produites sur cette planète, alors que les femmes travaillent autant, sinon plus. Et que ce sont eux qui sont au pouvoir, il n'y a qu'à regarder autour de nous, quoi, au pouvoir politique, à l'Assemblée nationale, la nôtre, elle n'est toujours pas paritaire. Ce sont eux qui gagnent le plus d'argent. Voilà. Donc, après, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des coûts à la domination masculine quand on est un homme. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne bénéficie pas de la domination masculine. Je m'explique, par exemple. Il y a un bénéfice à être en position de domination parce que, encore une fois, vous gagnez plus d'argent, vous vous sentez plus en sécurité, vous êtes plus libre de mener la vie que vous entendez, etc. Et à la fois, ça vient avec un coût qui est que, par exemple, vous avez un accès assez restreint à vos propres émotions, à certaines émotions. C'est-à-dire que chez les hommes, la plupart du temps, la colère est encouragée, mais pas la tristesse, pas l'expression de ces émotions. Il y a certainement une pauvreté relationnelle aussi chez beaucoup d'hommes, contrairement aux femmes qui ont des relations humaines plus riches, plus profondes, etc. L'interdiction de pleurer quand on est un homme, et puis après des tas de coups en fait et de limitations. Il y a qu'à penser à la façon dont les hommes sont extrêmement limités dans l'ornement d'eux-mêmes, dont ils s'habillent avec des vêtements super moches, dont ils ne prennent pas soin d'eux, dont ils se regardent pas, des coups en manière de santé. Les hommes se soignent beaucoup moins bien que les femmes. Et aussi à la mortalité supérieure des hommes, parce qu'ils prennent plus de risques. Et donc, ce sont eux qui sont les victimes d'homicides, des accidents de voiture, de la drogue, beaucoup plus d'alcooliques, etc.
Mais, en prison aussi.
Mais est-ce qu'on peut dire que du coup, et en prison, évidemment, 96% des détenus en France sont des hommes, mais est-ce qu'on peut dire qu'ils sont défavorisés dans le système? Mais non, en fait, tout ça, c'est des coups de la masculinité dominante.
Est-ce que du coup tu t'es intéressé à la galanterie? Parce que souvent, je vois beaucoup d'hommes qui disent oui, mais enfin, n'empêche que les femmes, elles aiment bien la galanterie, etc. etc.
Ouais, alors ça, c'est intéressant cet argument de la galanterie, parce que c'est encore Valérie Robert qui faisait remarquer. Donc elle a de longues, longues années de militantisme féministe. Hein. Chez moi, moi j'ai 30 ans, mais j'ai commencé à... j'ai commencé à m'intéresser vraiment, j'aime pas dire que je milite, mais j'ai commencé à produire des contenus féministes assez récemment, même si cette question m'intéresse depuis que je suis enfant. Mais donc Valérie et Robert, vous avez remarqué qu'en fait le point galanterie, les hommes deviennent fous en fait à partir de ce moment-là, c'est-à-dire que les réactions les plus hostiles, hein, c'est toujours quand on aborde la question de la galanterie, toujours. Quoi, tu dis... ça fait partie un peu du bingo, quoi. Si tu veux, quand t'es féministe, tu dis des choses et tu peux être absolument certaine qu'à un moment ou à un autre, il y a un type qui va arriver et qui va te sortir une des cases du bingo, quoi. Donc, ça va être soit oui, mais pas tous les hommes, le not all men, ou alors oui, mais la galanterie. Donc, la galanterie, ça fait typiquement partie du bingo. Et donc, voilà, ça va être l'argument de ouais, mais vous aimez bien qu'on vous tienne la porte quand même. Mm-hmm. Et t'es là, bah. Me tenir la porte parce que je suis une femme, c'est sexiste. En revanche, je trouve ça cool que tu tiennes la porte à tous les êtres humains, en fait. Ça, c'est être poli, c'est différent. Donc moi, j'ai rien contre la politesse. En revanche, je comprends pas du tout pourquoi on s'accroche autant à ce qu'on appelle la galanterie. Parce que très souvent, la galanterie, ça masque ce qu'on appelle du sexisme bienveillant. Donc, et le sexisme bienveillant, c'est comme le sexisme hostile, ça prend une autre forme, mais ça vise quand même à te remettre sans arrêt, en tant que femme, à ta place d'inférieur, quoi. Mmh. Et ce n'est pas le monde dans lequel j'ai envie de vivre comme féministe, j'ai envie d'être considérée comme un être humain à part entière, avec mon pouvoir, ma liberté, mes décisions, et j'ai pas envie qu'il y ait un type qui me rappelle sans arrêt que je suis de sexe féminin, c'est très pénible.
C'est clair, et c'est marrant parce que tu faisais la relation tout à l'heure à la couleur, et je pense qu'en couleur de peau, t'as la même chose en fait. C'est vraiment assez similaire. Il y a ça, je pense, comme argument, puis il y a l'argument aussi de, en cas de divorce, c'est toujours la femme qui récupère le bébé, tu sais. Mmh. Qui est un argument
assez
classique.
grand argument masculiniste aussi. Donc, je prépare une émission là-dessus, d'ailleurs, mais c'est pareil. Ce serait peut-être long. On n'a peut-être pas la place, là, de déconstruire cet argument-là. Mais oui, on dit aussi, les femmes, elles ont plus de pension alimentaire et tout ça. Et en fait, elles y gagnent et tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des familles monoparentales, ce sont des femmes. Elles constituent aussi la majorité des familles pauvres. Donc, en fait, déjà, ce qu'on sait, c'est qu'avoir un enfant dans un couple hétérosexuel quand t'es une femme, ça donne le lieu à une baisse de 20% de ton salaire, donc tu gagnes quand même moins d'argent parce que tu fournis tout un travail qui n'est pas considéré comme un travail dans notre société, qui est le travail de soins des enfants et de soins domestiques et de travail domestique, qui est quand même ce sur quoi s'appuie toute la société, c'est-à-dire qu'on considère que les femmes vont faire ce travail-là de soins des enfants, des handicapés, des personnes âgées et tout, gratuitement, ce qu'elles font. Il y a une grande partie du travail qui est indispensable à la survie des humains, qui là est effectuée gratuitement par les femmes. Donc l'histoire de les femmes récupèrent les enfants, d'abord, elles y gagnent pas du tout économiquement. Donc voilà, parce que là, les pensions alimentaires qui sont demandées sont ridicules, qui sont demandées par la justice, et en plus, et voilà, il y a plein de cas où elles sont pas versées, donc c'est vraiment un argument tout pourri. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très peu de cas qui sont conflictuels. En fait, la plupart du temps, les enfants restent avec la mère en cas de divorce parce que le père ne demande pas la garde, en fait, tout simplement. Donc, et ensuite, il arrive qu'il demande la garde et qu'on lui attribue pas, mais parce que, par exemple, la mère amène la preuve que c'est elle qui s'est occupée la plupart du temps de l'enfant. Donc, de toute façon, je pense que ça, c'est un énorme sujet en soi, de la façon dont collectivement on s'occupe des enfants, de la répartition du travail, hein, d'éducation et d'élevage des enfants. Je parle d'élevage pour parler de soins directs, hein, de les laver, de les habiller, de les nourrir, de les réveiller, etc. Bon, bah, ça, c'est encore un travail qui est encore très, très largement pris en charge par les femmes et qui n'est pas reconnu comme un travail.
Je suis ravi de t'entendre parce qu'on t'entend pas beaucoup, je trouve. Enfin, on t'entend beaucoup sur ton podcast, mais finalement, comme c'est pas ton avis,
Je
suis vraiment content de te recevoir.
Ah cool, merci, c'est gentil.
Du coup, ce podcast s'appelle Vlan, donc j'aimerais savoir à quoi tu voudrais claquer ou ouvrir la porte aujourd'hui.
Ah oui, je me suis dit, ah, tiens, je vais réfléchir à cette question pendant la conversation, mais j'ai toujours pas trouvé. Je sais pas à quoi je voudrais ouvrir la porte. Peut-être que j'ai envie d'ouvrir la porte à la débinarisation, c'est-à-dire d'arrêter de considérer les choses sous un angle tellement binaire, le féminin, le masculin, l'hétérosexualité, l'homosexualité, les humains, la tête, les pieds, le nord, le sud et tout ça. En fait, la réalité est infiniment plus riche, et ou le corps, l'esprit. La réalité et les réalités sont infiniment plus riches que ce binarisme-là. Et je pense que on peut vraiment complètement réinventer notre monde si on arrête de considérer les choses sous un angle aussi binaire.
Merci beaucoup, Victor.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté Volant. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.